écouté récemment un documentaire scientifique sur les trous noirs. Alors, apparemment, il y a beaucoup plus de trous noirs dans l'univers qu'on pensait. Même, ils sont en train de penser que au centre de toutes les galaxies, il y a peut-être un trou noir. C'est quoi un trou noir? Bien, c'est une grosse étoile qui a implosé, c'est-à-dire qui a explosé, mais vers l'intérieur. Et en implosant, cette étoile devient à ce moment-là une source de noirceur et une source de gravité qui attire tout vers elle. C'est comme une source de suction de puissance infinie, comme un aspirateur méga puissant et au point où ça absorbe la lumière, ça aspire la lumière et, voyez-vous, ça c'est comme une image un peu imaginée de ce que c'est qu'un trou noir. Ça ressemble à ça. C'est noir parce que la lumière ne peut pas sortir du trou noir. Alors, admettons que toi, tu es le pilote d'un vaisseau spatial qui voyage en ligne droite au milieu des galaxies. Bien, tu vas rencontrer à ta droite et à ta gauche des trous noirs à un moment donné, des affaires de même. Leur force d'attraction est redoutable et tu devras faire très attention dans ton pilotage. Si tu passes très proche du trou noir, ta direction va être changée. Si tu passes proche, tu vas peut-être être dévié par là à cause de la puissance d'attraction. Puis si tu passes beaucoup trop proche, si tu rentres dans la zone mortelle, eh bien, tu es comme aspiré dans le vortex et tu es annihilé dans le trou noir. Oui. Écrasé sous la masse de l'implosion. Mais on s'entend que ça ne serait pas le fun. C'est pas bon du tout. Mes amis, la prière du Notre Père affirme que notre vie terrestre de chrétien ressemble à un tel voyage. Et les trous noirs de notre voyage, ce sont les tentations. Je me souviens, dans une église où j'étais membre avant, il y avait un frère que j'aimais beaucoup. On avait beaucoup de fun à servir Dieu ensemble. Il était marié depuis longtemps. Il avait des enfants qui étaient adolescents. Et il travaillait dans le même bureau pendant très longtemps. Une femme dans ce bureau avait commencé à lui faire des avances. Ce n'était pas sa femme. Donc, il était marié avec une chrétienne. Ses avances sont devenues des propositions ouvertes. Et il a résisté pour un temps, mais apparemment avec un esprit partagé. Et un jour terrible est arrivé où il s'est laissé convaincre. Et je me souviens de son attitude, c'était « J'ai pesé les pour et les contre, ce fruit défendu, je pense que oui, ça me tente d'y goûter. » Et il avait comme pris une décision. Il est allé là où il ne fallait pas qu'il aille. Ce fut une bombe qui a explosé dans sa relation avec Dieu, dans le couple, dans la famille, dans l'Église. Cette bombe a causé beaucoup de dommages. Seul un Dieu de grâce a pu, par la suite, apporter des guérisons. Et il y en a eu, pas totalement, mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Ça, cette histoire de tentation et de chute que je viens de vous raconter, rappelle cette image du livre des Proverbes, Proverbes chapitre 5, à partir du verset 3. C'est un peu, c'est notre vie. C'est un peu aussi la tentation paradigmatique, c'est-à-dire c'est comme on comprend, tout le monde comprend c'est quoi la tentation quand on lit ceci. Certes, les lèvres de l'étrangère ruissellent de miel et son palais est doux. Est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas aboutissent au séjour des morts. Passe loin d'elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Merci beaucoup, Pascal. Pascal, il travaille fort aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui. Alors, comme je vous dis, c'est vrai que les tentations sexuelles, particulièrement pour les hommes, c'est tellement une grosse affaire qu'il faut en parler dans la Bible. D'un autre côté, les femmes sont tentées aussi par des hommes. Par ailleurs, la liste des fruits de la chair dont Paul parle dans Galates 5, nous montre qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup d'autres sortes de tentations. Hein? Galates 5, 19 et suivant, Paul va parler de l'adultère, de l'immoralité sexuelle, de l'impureté, de la débauche, puis il continue, l'idolâtrie des dieux qui ne sont pas dieux. Ah ben là, tu nous donnes des problèmes de conscience. La magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Secte voulant dire diviser l'Église de Jésus-Christ. L'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Et Paul dit à la fin, et les choses semblables. C'est-à-dire, même cette liste-là n'est pas complète. Ouais. On a beaucoup de trous noirs sur notre parcours. Toutes sortes. Et Jésus nous demande de prier sans cesse la prière suivante. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, il y a trois difficultés de traduction de ce verset qui a été écrit en grec. Premièrement, le verbe ici, je trouve que celle-là, après étude, c'est une très bonne traduction. Ne nous laisse pas entrer. La traduction française, elle a changé plusieurs fois depuis que je suis petit. Mon père, je me souviens, quand j'étais petit, après, ne nous laisse pas succomber à la tentation, que j'aimais beaucoup. Après ça, c'est devenu ne nous soumets pas à la tentation, ce qu'on a lu tantôt. Et dernièrement, on entend ne nous laisse pas entrer, que j'aime beaucoup. La deuxième difficulté, c'est que le mot tentation, épreuve, le mot épreuve et le mot tentation, c'est le même mot en grec. Pas en français, c'est deux mots différents. Donc, en grec, il y a les deux idées différentes pour le même mot. C'est un peu comme quand on dit une souris en français. Est-ce que c'est l'animal ou est-ce que c'est le périphérique de mon ordi? Ça dépend du contexte. Et donc, on traduit tentation, ce deuxième problème. La troisième difficulté, délivre-nous du mal ou du malin? Ça peut être l'un ou l'autre, selon la grammaire. Et moi, j'ai été convaincu qu'il faut traduire malin, c'est-à-dire Satan, l'ennemi. On va voir avec ce qui va suivre pourquoi. Est-ce que ce n'est pas un peu étonnant, mes frères et sœurs, que la prière gabarit de Jésus termine sur une note si négative? C'est vrai qu'il y a la doxologie qu'on a dit tantôt, cette phrase à la fin, « Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles », c'est vrai, mais on voit en étudiant les anciens manuscrits et les évangiles que Jésus n'a pas toujours incluse cette doxologie quand il enseignait sa prière modèle. Alors, pourquoi terminer la prière avec une note aussi pessimiste? Bien, ce n'est pas vraiment pessimiste. Toute la prière du Seigneur est pleine de joie et d'espérance. Nous sommes le peuple à qui Dieu donne le royaume et il veut nous préparer pour vivre dans la préparation du royaume de Dieu. Amen. Oui, amen. Mais qu'est-ce que Jésus nous apprend par cette prière? Il veut nous donner une vision haute de Dieu et une vision réaliste, donc basse de nous-mêmes. Plus on est humble, plus on est modeste et sobre par rapport à la réalité de ce qu'on est capable d'accomplir par nous-mêmes, et plus on va aller loin avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on a ces requêtes qui semblent si humbles à la fin du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, on pardonne à nos frères, et puis protège-nous de la tentation. Donc, la leçon que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est ceci. Oh, wow! Je vais avoir des problèmes avec le PowerPoint et peut-être qu'il ne marchera pas du tout. Donc, je vais vous demander d'être très attentif. La leçon d'aujourd'hui, j'imagine, vous ne voyez pas. Hein? Donc, la demande qui est faite ici, ce n'est pas dans le sens « Père, dirige-moi vers mon futur glorieux » pour que je puisse te glorifier par mes belles œuvres. Bien que c'est un peu vrai comme prière, c'est juste l'attitude de Jésus, c'est beaucoup plus, Père, protège-nous de la puissance de la tentation, nous qui sommes faibles, protège-nous de la puissance de la tentation, alors que toi, tu glorifies toi-même ton propre nom. Alors c'est un peu choquant. Pourquoi cette vision si limitée? Mais on va faire confiance à Jésus. Jésus qui nous dit, ne nous laisse pas, ou qui nous demande de prier, à chaque jour, plusieurs fois par jour, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous de Satan. Délivre-nous du malin. Et donc, c'est cette deuxième version que j'aimerais qu'on retienne. Père, empêche-nous de faire les gaffes qui sont devant nous, mais qu'avec ta puissance, on va éviter et ça va nous mettre en position de te servir. Et là, il peut y avoir de très merveilleuses choses qui vont se passer. Je vais vous mitrailler de versets maintenant. Merci d'être attentif. Prenez des notes. J'espère qu'on va pouvoir les voir. J'ai fait l'erreur que Pascal m'a dit de ne pas faire. J'ai trouvé une police que je trouvais vraiment cool, qui allait bien avec le fond intergalactique. Mais là, des fois, il y a des polices que l'ordi là-bas n'aime pas. Et je crains que ça s'en soit une. Alors, je vais vous demander d'écouter, d'ouvrir votre Bible, peut-être de prendre des notes. Parce que j'ai beaucoup de versets à vous montrer ce matin. En fait, j'ai sept... Par rapport à « Ne nous laisse pas entrer en tentation », j'ai sept vérités bibliques avec des versets à l'appui pour nous aider à comprendre le puzzle. Et pourquoi c'est un puzzle? C'est en partie parce que c'est mystérieux. Le mystère du mal est mystérieux, mais aussi, nous, quand on commence à rentrer dans le vortex de la tentation, vous savez tous de quoi je parle, quand on se laisse gagner par l'attraction de quelque chose qu'au départ, on dit non. Bien, on commence à penser d'une manière illogique. On commence à penser, bien, peut-être que ça serait bien. Peut-être que Dieu me donne la permission. Peut-être que... Et donc, il faut qu'on garde à l'esprit tout ce que la Bible dit sur le sujet. Alors, allons-y avec nos sept... sujet, nos sept vérités. Premièrement, voyons si on a des diapos lisibles. Pas vraiment. Vous voyez peut-être à peine, hein? Mais en tout cas, je vais vous lire ça. Première vérité, nous avons un ennemi qui est vaincu, mais encore dangereux. Ça, on l'a vu dans l'Apocalypse. Hein? Après la croix de Christ, Satan a été vaincu. Amen? Mais ce que l'Apocalypse dit, c'est qu'il a été jeté dehors. Hein? Là, je lis Apocalypse 12, verset 9 et verset 12. Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. OK? C'est ce qu'on avait vu, c'est que Satan est vaincu, mais en quelque sorte, projeté sur la terre, Dieu lui donne une dernière chance. Pourquoi? On ne sait pas, on a quelques idées, on va voir un peu plus tard. Une dernière chance pour essayer de convaincre des humains pas intelligents, on pourrait dire. Enfin, on est tous pas intelligents, mais essayer de convaincre des gens de le suivre dans la perdition. Donc, ça, c'est Apocalypse 12, 9 et 12. Et la vérité en question, nous avons un ennemi personnel, quelqu'un qui est très puissant, bien que déjà vaincu, et il travaille fort. Il travaille fort pour empêcher les non-chrétiens d'entendre l'Évangile. Et quand ils l'entendent, hein, Jésus a dit, il vient comme un oiseau voler la semence sur l'asphalte, okay, le semeur qui sème le grain. Et l'oiseau représente Satan qui vient enlever la semence de la parole. Mais les chrétiens, nous, Satan cherche à nous entraver dans notre service de Dieu par la tentation. Deuxième vérité maintenant, c'est que Dieu... Ah, c'est pas lisible, mais bon, écoutez-moi bien. Deuxième vérité, Dieu nous aime et c'est jamais lui qui nous tente, OK? Dieu nous aime et c'est jamais lui qui nous tente. C'est jamais lui qui veut nous faire pécher, qui veut nous inviter dans la chute, d'accord? C'est très, très important. Jacques 1, verset 13 à 15, vous pouvez écrire ça, Jacques 1, 13 à 15, « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Puis là, ça continue, mais je vais arrêter là. Alors, c'est juste, quand tu t'approches du vortex, et tu vas peut-être te dire, « Ah, mais c'est à cause de Dieu que je suis ici. C'est parce qu'il m'a pas, il m'a peut-être empêché que je ne sois pas ici. » C'est jamais Dieu qui te tente. Son désir, c'est toujours de te donner... une voie de victoire dans la situation. OK? Amen. Par contre, Dieu, ce que Dieu fait activement dans son amour pour toi, c'est qu'il permet l'épreuve, la difficulté, l'opposition, la persécution, la souffrance. Dieu va permettre ces choses sur ton chemin. Et quand il le fait, c'est toujours pour te rendre plus fort par des expériences de victoire. Amen? Amen. Bon. Oh, yes. D'accord, vous êtes avec moi. Jacques, le même Jacques, dit dans la même lettre, Jacques, le frère du Seigneur, il dit, « Mes frères et sœurs, ça c'est Jacques 1, verset 2 à 4, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Alors, ça commence à être un peu compliqué, mais ça ne l'est pas. Dieu permet les épreuves, les épreuves sont là pour fortifier notre foi. Et puis, donc la troisième vérité, donc on a vu, on a un ennemi, Dieu ne nous tente pas, mais il permet l'épreuve. Troisièmement, là ça devient encore plus compliqué, il y a, en général, il y a un lien entre l'épreuve et la tentation. OK? C'est pour ça que les Grecs ils ont décidé d'utiliser le même mot pour parler des deux. C'est deux choses différentes, mais il y a un lien. C'est comme un secret. C'est que dans chaque épreuve, il y a une tentation, généralement. Prenons l'exemple de la persécution. Tu es persécuté parce que tu es chrétien. On te maltraite à ton travail parce que tu es chrétien. Il y a quand même une tentation là-dedans dont l'ennemi ou un serviteur de notre ennemi, un ange maléfique, peut se servir pour que tu compromettes ta foi ou même jusqu'à que tu ailles jusqu'à renier ta foi. Dans chaque épreuve, il y a la possibilité d'une tentation. Et aussi, une tentation, c'est également une épreuve. Toute tentation est une épreuve, une épreuve de ton obéissance. Là encore, dans les deux cas, Dieu veut te donner la victoire. Et c'est pour ça qu'il a permis que ça soit sur ton chemin. Quatrième vérité, Jésus est notre exemple. Regardons à sa vie. Jésus, il a vécu la même vie que nous. Et au début de notre vie chrétienne, on est comme souvent, on est axé sur sa divinité. On dit, merci Jésus d'avoir accompli à ma place, qu'est-ce que moi, je n'étais pas capable d'accomplir. Ça, c'est vrai. On le remercie, mais ça, c'est la justification. Mais la deuxième étape, la sanctification, c'est une nouvelle prière. Jésus, apprends-moi à vivre comme toi, tu as vécu. Parce qu'il a vécu notre vie d'enfant de Dieu, dirigé par le Saint-Esprit comme homme, et il nous apprend à le vivre. Et je cite Hébreux 2, 18 et Hébreux 4, 15. Vous pouvez noter ça. Hébreux 2, 18, Hébreux 4, 15. Je vais les lire les deux, un après l'autre. En effet, il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté. Donc, il peut secourir ceux qui sont tentés. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Amen. Alors, c'est merveilleux. On regarde à Jésus, c'est une clé des Écritures. Il faut étudier sa vie. D'ailleurs, l'Alliance chrétienne et missionnaire était un peu pionnière dans le milieu évangélique des années 1800, début 1900, pour dire c'est important que le chrétien, incroyable, on est rendu, on est là, oh wow, OK. Et est-ce que ça marche? Oui, OK. Il faut qu'on soit des étudiants de la vie de Jésus, parce qu'on veut devenir comme lui. Donc ça, c'est le quatrième point. Alors, premier point, on a un ennemi. Deuxièmement, Dieu ne nous tente pas, mais permet l'épreuve. Dieu nous aime. Troisièmement, il y a un lien. Quatrièmement, suivons l'exemple de Jésus. Cinquièmement, faut voir c'est qui le vrai ennemi dans la tentation. Alors là, regardez donc ce verset-là. Tout petit verset qui en dit beaucoup. Puis là, je vais avoir une question à vous poser. Alors, ça, c'est juste après le baptême de Jésus. L'Esprit-Saint descend sur lui, puis regardez ce qui se passe. Puis Jésus, n'oubliez pas, il vit la même vie que nous comme être humain. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Okay, je vais vous le relire. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, qui sont les différents personnages de ce verset? Il y a trois personnes ici qui sont mentionnées. C'est qui? Jésus, OK? OK, là, vous parlez tous en même temps. Oui, Robert. Jésus, après ça? Le diable. Puis l'Esprit. Puis l'Esprit, c'est qui? C'est Dieu, oui. OK. Alors, pensez-y une minute. C'est quand même frappant, non? Alors, je ne me contredis pas, je pense. Jésus va être tenté non pas par l'Esprit, mais par le diable. Par contre, l'Esprit a comme une intention qui est un peu troublante, non? Mais regardez un peu comment moi, je m'aide moi-même à comprendre tout ça. OK. On voyage. On voyage dans l'univers intergalactique qui est notre vie de service de Dieu. OK, voyez-vous, ça c'est notre vaisseau spatial, OK? Et il y a une direction dans laquelle je me promène et hop, il y a un trou noir qui n'est pas loin, qui est à ma gauche. Et puis je me dis dans mon intelligence, mon but, c'est pas d'être tenté et de m'approcher puis de rentrer dans le vortex, dans la zone mortelle. Toutefois, il y a un ennemi. Là, j'avais une autre flèche, mais je crois que... Attendez. Ah non, c'est ça. Mon but à moi, c'est de ne pas rentrer. Mais j'ai un ennemi qui cherche à me tenter. Et c'est vrai que la Bible dit... Il y a une force à l'intérieur de moi, ma propre convoitise qui est à l'œuvre. Il y a le monde également qui nous pousse parfois, souvent même, à aller vers le péché. Mais moi, mon but en tant que chrétien, c'est de continuer ma route, n'est-ce pas? Et ce qu'il ne faut juste pas oublier, c'est que dans tout ce processus, Dieu est là, qui savait d'avance que je m'en allais dans cette direction, et que j'avais tout ce qu'il faut pour éviter de rentrer dans la zone de danger et de continuer ma route. Par contre, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un danger, n'est-ce pas? Dieu ne nous tente pas. Il met des épreuves et permet... que le tentateur nous tente pour nous donner des victoires. Sixième vérité, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que Dieu est actif et présent dans son amour avec nous dans la tentation. Amen, il y a beaucoup de amen et j'aime ça. C'est vrai que peut-être vous trouvez ça simpliste, peut-être vous trouvez que c'est très noir comme vision. L'univers est très sombre. Non. Il faut voir ce côté sombre pour vivre dans la lumière. C'est dans ce sens-là qu'il faut se pencher sur cette requête qu'on dit parfois très vite quand on pense au Notre Père. Elle est pourtant très importante. Voici peut-être le verset, s'il y en a au moins un que vous devriez apprendre par cœur, c'est celui-ci. Regardez la bonté de Dieu, regardez son amour pour toi. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, c'est-à-dire à la mesure de ta capacité. Pas juste humaine en général, mais toi, qui tu es avec tes forces et faiblesses. Dieu ne permettra pas, Dieu est fidèle et ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta propre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça, c'est 1 Corinthiens 10, 13. Je vous encourage à l'apprendre par cœur et à le réciter pour que ça reste dans votre cœur. J'ai inclus le verset 14 parce que Paul parle d'une tentation particulière dans le monde de cette époque qui était de se joindre à nos voisins et amis païens dans le culte des faux dieux. Les repas sacrés aux idoles et tout ce mélange de spiritualité qui était présent à ce moment-là. Et Paul dit aux chrétiens, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alors, ça veut dire que dans certains cas, Dieu pourvoit la solution. Le moyen de sortir, c'est de fuir dans l'autre direction. Dieu est bon. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé, qu'est-ce que tu as sur la tête ici? Et en fait, je manquais de sagesse. Et lundi, c'était ma journée off. En fait, je vous avoue un manque de jugement de ma part. Je me suis dit, bon, je m'en vais en ville voir un ami. Je vais amener du travail avec moi. Au cas où il ne se présente pas, je pourrais faire du travail pour l'Église. Mais j'avais déjà dit au Seigneur, je prends la journée pour me reposer puis prier. Je descends les escaliers, puis hop, je glisse. Et ma tête frappe le rebord c'est le soutien du plancher du rez-de-chaussée. Boum! J'étais pas content, mais c'est comme dans mon étourdissement, et c'était pas, j'ai pas eu très mal, ça a pincé un peu, mais dans mon étourdissement, je me suis dit, ah, OK, qu'est-ce que je faisais encore? Non, j'amènerais pas de travail avec moi en ville. Et bon, peut-être vous dites, le pasteur de l'Oasis, il est fou. Mais moi, j'ai pris la chose simplement. Je me suis dit, OK, Seigneur, c'est peut-être toi qui essaies de me dire, t'as tendance à être workaholic, à trop travailler. J'en amènerai pas de travail. Puis mon ami il s'est présenté, puis on a eu un super de bon temps anyway. Alors, vous voyez comment Dieu est bon, il est avec nous dans l'épreuve, même quand on ne se rend pas compte qu'on est à veille d'être éprouvé. C'est tard. Il est tard, mais j'ai un point vraiment important. Le septième, on va le faire. Je vais le résumer. C'est que, et peut-être il faudra que j'en reparle un autre dimanche parce que je vois que ça va prendre un peu de temps. C'est que, tenez-vous bien, c'est qu'on voit dans la Bible que Dieu lui-même, que Satan lui-même va régulièrement demander la permission à Dieu de nous tenter. Et Dieu, parfois, lui donne la permission. Moi, ça me fait très peur. Pourquoi Dieu décide cela? En fait, il faut en quelque part croire, bien, ça demeure, hein, ça c'est les choses de Dieu, on ne comprend pas tout, mais on se dit, Dieu en quelque part, il est capable d'utiliser Satan pour nous rendre meilleurs, sans que Satan s'en rende compte. Alors, pourquoi je vous dis ce point-là, que Satan va demander la permission à Dieu de t'éprouver, de te tenter, et que Dieu parfois lui donne. Moi, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, mais je vois que dans la Bible, ça se passe. On le voit avec qui? Job d'abord, hein, chapitre 1. Satan voulait démontrer que Job n'aimait pas vraiment Dieu pour lui-même, mais il aimait seulement les dons que Dieu lui donnait. Et Dieu lui dit, OK, vas-y, je te donne la permission. Puis Job, il en a arraché, mais il a tenu bon. Et puis, en quelque part, Dieu l'a rendu plus fort. Dieu a donné une permission à Satan et puis a donné la victoire à Satan. Et il y a deux autres exemples. Il est trop tard, mais donc Pierre, écoutez bien ça, là. Non, ça c'est Pierre, c'est le gars avant. Simon, Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Le crible, c'est comme une espèce de passoire où tu te fais shaker et puis si tu ne fais pas le poids, tu tombes dans la poubelle. Hein, le sable, donc le bon blé, il reste dans le crible. Et puis Satan a dit, Dieu, donne-moi la permission de shaker Pierre jusqu'à ce qu'il tombe. Jésus l'a gardé. Et puis le troisième exemple, qui est compliqué, c'est Paul. Que Satan a demandé la permission à envoyer un ange pour frapper Paul avec une écharpe dans le corps. Et Paul a supplié la guérison. Enfin, si, on imagine que c'est une maladie, mais on ne le sait pas. Et Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit, ma puissance accomplie dans la faiblesse. » Et notez ici, « Pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, » c'est comme si il y a deux trous noirs, un petit puis un gros. Puis, c'est comme si Dieu dit, bien, le petit, Paul est capable de le prendre, je vais le fortifier à travers la première épreuve pour l'empêcher d'aller vers la grosse épreuve pour laquelle il n'est pas prêt à cause de son orgueil. Il va chuter. Alors, c'est tout ce que je vais dire pour le moment. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? C'est que, et je vais clore en disant quelques items maintenant. Si Jésus nous demande de prier sans cesse, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. C'est parce qu'on en a besoin. Hein? C'est parce que c'est notre vie. Donc, c'est correct de temps en temps de prier, « Amène-moi, Jésus, vers mon futur glorieux terrestre pour te glorifier par mes belles œuvres. » D'accord, j'ai pas de problème. Mais ici, Jésus te dit plutôt, « Seigneur, je reconnais mes limites, ma vulnérabilité. Protège-moi de la puissance de la tentation, alors que toi, tu glorifies toi-même ton propre nom. » Oui, il va t'utiliser, mais une de tes jobs importantes, c'est de prier cette prière. J'invente, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas moi qui invente tout ça. Ça vient vraiment des Écritures. Nos ancêtres, dans la foi, on chantait ceci. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent de ce chant. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Hein? C'est le chant « J'ai soif de ta présence » qui réapparaît avec des nouvelles mélodies ces jours-ci. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça? Oui, hein? Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Alors, c'est pour ça qu'un autre sujet, pour une autre fois, ça va être de creuser un peu cet autre verset. Je vous ai vraiment bombardé. Mais c'est Éphésiens 6. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Pourquoi est-ce qu'on fait des formations? Pourquoi est-ce qu'on étudie la Bible? Pourquoi est-ce que je passe du temps à préparer des sermons comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a des groupes maison? Pourquoi est-ce qu'on a des soirées de prière? Il faut qu'on s'arme, mes frères et sœurs. on oublie la réalité de notre voyage et on est trop confiant. Jésus nous rappelle nos limites. Donc, pour terminer, et là vraiment je vais terminer, je vous rappelle donc parce que ça, on l'étudiera ensemble. Mais l'autre aspect, c'est de prier. Donc, nous avons besoin de prière. Je vous invite encore une fois, venez à la prière de 9 heures des dimanches matins. Venez au groupe maison, qui sont des lieux d'intercession. Ceux qui sont responsables des groupes maison, n'oubliez pas la prière les uns pour les autres. Venez le 13 février, où nous allons aussi, le jeudi soir, 13 février, avoir un temps pour intercéder les uns pour les autres. Amen! Amen! Alors, prions. Alors, j'inviterai 2 ou 3 personnes à élever des prières pendant qu'on installe le PowerPoint de la musique. Et j'inviterai Suzanne à s'approcher aussi. Et s'il y a quelqu'un qui aimerait élever une prière, on va se lever ensemble et prier. Et puis, je vais clore la prière dans quelques instants.